Une vie, une œuvre, Camille Claudel, N, 1864, Vaucluse, 1943. L'enfance de Camille Claudel s'inscrit dans un réseau familial dont le frère Paul est la pointe ardente. À 12 ans, Camille se passionne pour le modelage et Alfred Boucher lui donne ses premières leçons. 10 ans plus tard, elle rencontre Rodin, dont elle sera modèle, puis praticienne. Leur aventure passionnée ne résiste pas au temps. Elle s'installe alors sur l'île Saint-Louis et de 1893 à 1908 vit des années de création solitaire. Dès 1901 pourtant, Maurice Potcher écrit « Elle est fatiguée jusqu'au désespoir, elle veut abandonner son art et elle a déjà brisé une partie de ses moules. Son caractère ombrageux et un peu bizarre explique sans doute en partie la solitude, l'abandon et la quasi-détresse matérielle où elle est réduite. Ce sont 30 années à l'asile de Mondevergue qui suivront. Bénédicte Niogré signe avec Christine Bernard-Sugy et Nathalie Salles « Une vie, une œuvre, Camille Claudel ».
Eugène Blot à Camille Claudel. 3 septembre 1932. Chère Camille, en classant des papiers le mois dernier, j'ai retrouvé plusieurs lettres de vous qui m'étaient adressées. Je les ai relues. Elles datent toutes de 1905, l'année où j'organisais pour vous dans ma galerie l'exposition qui enthousiasma la critique, sans hélas dégeler les amateurs. Que d'événements depuis. Votre départ, la guerre, la mort de Rodin, la maladie qui me tint éloigné de Paris jusqu'en 1926. J'avais perdu votre trace. Dans le monde combinard de la sculpture, Rodin, vous, trois ou quatre autres peut-être, aviez introduit l'authenticité. Cela ne s'oublie pas. X garde un souvenir encore émerveillé de votre marbre de l'Implorante pour le salon de 1904, qu'il considère comme le manifeste de la sculpture moderne. Vous étiez enfin vous-même, libéré totalement de l'influence de Rodin, aussi grande par l'inspiration que par le métier. Je ne la regarde jamais sans une émotion indicible. Il me semble vous revoir. Ces lèvres entrouvertes, ces narines palpitantes, cette lumière dans le regard, tout cela crie la vie, dans ce qu'elle a de plus mystérieux. Avec vous, on allait quitter le monde des fausses apparences pour celui de la pensée. Quel génie ! Le mot n'est pas trop fort. Comment avez-vous pu nous priver de tant de beauté? Un jour que Rodin me rendait visite, je l'ai vu soudain s'immobiliser devant ce portrait, le contempler, caresser doucement le métal et pleurer, oui, pleurer, comme un enfant. Voilà 15 ans qu'il est mort. En réalité, il n'aura jamais aimé que vous, Camille. Je puis le dire aujourd'hui. Tout le reste, ces aventures pitoyables, cette ridicule vie mondaine, lui qui dans le fond restait un homme du peuple, c'était l'exutoire d'une nature excessive. Oh, je sais bien, Camille, qu'il vous a abandonné. Je ne cherche pas à le justifier. Vous avez trop souffert par lui. Mais je ne retire rien de ce que je viens d'écrire. Le temps remettra tout en place. Avec mon affection et mon respect, votre Eugène Blot.
L'or de Camille Claudel, une émission de Bénédicte Niogré dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy.
C'est vrai que c'est un grand malheur, c'est un échec total de la vie, de sa vie de femme, elle a été déçue dans sa maternité, enfin tout ça c'est un échec, oui ça c'est sûr, mais enfin l'œuvre reste et ça c'est splendide, hein. C'est ça qui reste, hein, ce qui demeure, hein. Vraiment, bon la carcasse disparaît, mais les œuvres vivent toujours et elles sont très très vivantes, d'ailleurs la manière dont elle sculpte Camille, c'est la vie même, c'est le souffle enfin, qui les anime et on le retrouve dans... Nulle part ailleurs, hein. même chez Rodin, qui est un art beaucoup plus viril, beaucoup moins spiritualisé que celui de Camille, Ce Camille est très intériorisé et c'est ce qui le rend émouvant. Alors on a dit que son œuvre est autobiographique, d'accord, elle est autobiographique, mais c'est pas...
L'œuvre de Camille.
Oui, mais d'accord, mais ce n'est pas une critique, au contraire. Je trouve que c'est ça l'originalité de Camille. C'est que justement, elle est autobiographique, mais qu'elle aborde tous les thèmes de la vie. Tous les thèmes de la vie. Le thème de l'enfance, de la vieillesse, de l'amour, le portrait, enfin... Elle les aborde tous par le cheminement de l'autobiographie, mais enfin, c'est pas une critique.
Camille Claudel, sculpteur ou statuaire, pour reprendre l'expression de son frère Paul, naît en 1864 dans le département de l'Aisne. À 20 ans, elle rencontre Auguste Rodin, qui a plus du double de son âge. 15 ans plus tard, c'est la rupture définitive de ce lien artistique et affectif. Encore 15 ans, elle a 49 ans, et c'est l'internement psychiatrique, jusqu'au bout de sa vie, 30 ans plus tard. Elle meurt le 19 octobre 1943, en pleine guerre, et est inhumée dans la fosse destinée aux pensionnaires de l'asile. Auguste Rodin avait dit à son propos « Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est à elle. »
Ici, ma plume reste en suspens, et ma pensée ne peut se détacher de la visite suprême que je viens de faire à ma pauvre sœur Camille, dans la cité de douleur où depuis 30 ans elle consume une existence informée. Maintenant, elle a près de 80 ans, et dans un dernier éclair de raison, elle s'est souvenue de moi. Elle va mourir, elle m'appelle. Je baise cette figure terrible et cependant, comment dirais-je, illuminée. Ce front puissant, dont l'âge a dégagé la majesté, et où le malheur ni la maladie n'ont pu effacer la marque auguste du génie. Elle est contente de me voir, et cependant je la dérange. Elle a hâte de revenir à ces choses importantes où elle est engagée. Et revenant chez moi à travers les montagnes, et toute cette fructification de vignes et de noyers, par cette longue route pareille au ruban d'or qui se rétracte, je remâche douloureusement tout le passé. Je revois émergeant de l'enfance cette jeune figure triomphante, ses beaux yeux bleus foncés, les plus beaux que j'ai jamais vus, qui se fixent avec moquerie sur ce frère maladroit. Je contemple l'une après l'autre toutes ces œuvres dont chacune marque une étape de l'affreux calvaire et dont la glaise a été pétrie avec de l'âme et du sang. L'abandon au destin, la valse, la vague, le groupe à trois personnages de l'âge mûr, la cheminée et la dernière œuvre, la plus tragique de toutes, celle qui a précédé immédiatement la catastrophe, Percée. Percée est debout, sa main gauche tient un miroir, et de la droite, fléchissant de surprise et d'horreur, il élève derrière lui la tête de la Gorgone, où il n'est pas sans apercevoir ses propres traits. Car le destin ne marche pas devant nous, il nous suit pas à pas, comme le monstre derrière le cavalier de Durer, et il nous presse. Paul Claudel, Cantique des Cantiques.
Reine-Marie Paris, vous êtes une des petites filles de Paul Claudel et donc la petite nièce de Camille Claudel. Est-ce que vous l'avez connue ?
Non, je ne l'ai pas connue. Ma mère l'a connue, elle a été deux fois à l'asile de Mondevergue avec son père, donc Paul Claudel. Et elle s'étonnait toujours que Camille lui paraissait très, très normale. Elle posait toujours la question à son père, mais enfin, papa... Elle a l'air très normale, elle pose des questions sur la famille et tout, et son père dit oui, mais dès qu'on a tourné le dos, elle sombre dans ses obsessions. Sa peur d'être spoliée par Rodin et la peur d'être assassinée.
D'où venait donc la famille, le père et la mère de Paul et de Camille Claudel ?
Le père de Camille venait des Vosges, de la Bresse. C'était une famille de collecteurs d'impôts, je crois. Ils avaient aussi... un bureau de tabac, enfin, c'était des gens très, très modestes, et c'était le dernier d'une famille de 7 enfants. Il a fait de bonnes études au collège des Jésuites à Remiremont. Et après, ensuite, il est rentré dans l'administration des finances. Il a été nommé à Villeneuve, à Ferrand-Terre-de-Noix, où il a rencontré sa femme, qui avait du bien, qui possédait des terres, qui était la fille d'un médecin, la nièce du curé du village.
Voilà. Ça a été un couple heureux ?
Non, je crois pas. On dit qu'ils n'étaient pas heureux, qu'ils se disputaient beaucoup. Le père était très colérique, très sarcastique. D'ailleurs, Camille a hérité de ce don, si je puis dire.
Oui, on relève souvent son don pour le sarcasme ou les railleries.
Et la mère était une femme effacée, qui était une bonne maîtresse de maison, et puis qui n'a rien compris à la vocation de ses deux enfants. Et enfin, qui préférait de loin Louise, la dernière, parce qu'elle a eu une vie plus conforme à ses idées de bourgeoise, quoi, de l'époque.
Brigitte Fabre-Pellerin, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Vous avez consacré un livre à Camille Claudel sous le titre « Le jour et la nuit de Camille Claudel », publié en 1988 par les éditions Lachenal Héritaire. Comme le dit votre préfacier Yves Pélissier, il s'agit d'une sorte de drame psychologique dans lequel vous ressuscitez le contexte d'émergence de la psychose paranoïaque de Camille. On a beaucoup parlé dans cette émergence du rôle de sa liaison avec Rodin, mais vous fouillez plus loin à la manière analytique et vous retrouvez les bases familiales sur lesquelles s'est construite la personnalité de Camille Claudel. Quel est le rôle effectivement que la mère de Camille Claudel a joué dans son destin ?
Je pense que c'est un rôle très important, d'abord parce que c'est une femme qui a beaucoup souffert et qui a été marquée d'emblée par son absence de mère. Elle a été orpheline à l'âge de 3 ans, cette femme. Elle a donc vécu entre un père et un frère qui se disputaient en permanence. Elle a vécu certainement sans beaucoup d'amour et en tout cas sans beaucoup de tendresse. Ensuite, le drame qu'elle a fait vivre à Camille a été la perte d'un fils premier-né, Camille ayant suivi la naissance de ce fils. Elle a été conçue 7 mois après le décès de ce premier-né qui s'appelait Charles-Henri. Elle est donc ce qu'on appelle un enfant de remplacement, c'est-à-dire qu'elle va venir remplacer ce premier-né qui était un garçon. C'est comme si la mère n'avait pas pu aller jusqu'au bout d'un deuil et que Camille venait remplacer ce garçon. Elle a donc eu un rôle viril d'emblée qui était attribué par la mère. Si elle a été sculpteur, c'est qu'elle a voulu répondre à l'amour de sa mère qui s'adressait à un enfant garçon. Hein, c'est bien comme ça que je vois les choses. Et donc, elle s'est inscrite comme sur une sorte de moule en négatif par rapport à cela. Elle était ce que sa mère voulait pour en obtenir l'amour.
Et d'ailleurs, vous dites que Camille était à l'époque un prénom plutôt masculin que féminin.
Oui, c'est vrai.
Votre principale qualité ? Je n'en ai pas. Elles sont toutes ennuyeuses. La principale qualité d'un homme, d'obéir à sa femme. La principale qualité d'une femme, de bien faire enrager son mari. Votre occupation favorite, de ne rien faire. Qu'est-ce qui vous caractérise ? Le caprice et l'inconstance.
Je pense qu'il y a eu certainement un problème avec les deux parents. La mère pour des raisons psychologiques dont on a parlé tout à l'heure. Le père parce qu'il avait certainement beaucoup de mal à s'exprimer. Il l'écrit d'ailleurs dans une lettre à son fils. Et mon cœur plein de choses impossibles à exprimer. Je pense qu'elle avait certainement un peu mieux. Enfin, elle s'entendait certainement plus facilement avec son père qu'avec sa mère. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'était jamais dit ou qui était dit d'une façon tellement agressive que ça ne pouvait pas être avec la famille et que ça s'est tourné d'une autre façon.
Et quand vous dites Camille se pose en s'opposant, est-ce que c'est justement très particulièrement par rapport à sa mère que vous dites ça ?
Je crois qu'elle se pose en s'opposant par rapport à toute cette famille. Cette famille était émaillée de disputes sans fin. Et tout le monde se disputait, comme le dit Paul Claudel. Les parents se disputaient entre eux, les enfants se disputaient entre eux et les parents avec les enfants. Je crois que le seul mode d'expression de cette famille était l'agressivité. L'agressivité, les cris, les disputes. Donc c'est un mode de réaction univoque au sein de cette famille.
Et donc le refuge pour l'un et pour l'autre, ça a été la solitude avec les livres pour Paul et avec la terre pour Camille.
Oui, certainement. Le refuge est en même temps une façon de s'exprimer qui n'était pas possible au sein de la famille, de s'exprimer autrement, de s'exprimer autrement que par des cris ou par des disputes.
Votre idée du bonheur, d'épouser le général Boulanger. Votre idée du malheur, d'être mère de nombreux enfants. Votre couleur est votre fleur préférée. La couleur qui change le plus est la fleur qui ne change pas. Si vous n'étiez pas vous-même, qui seriez-vous? Un cheval de fiacre à Paris. Vos poètes favoris? Celui qui ne fait pas de vers. Vos peintres et compositeurs favoris? Moi-même. Vos héroïnes dans la vie? Louise Michel. Vos héroïnes préférées en littérature? Lady Macbeth. Camille Claudel. 16 mai 1888.
La sculpture, le pourquoi de la sculpture me semble important. D'abord, c'est, on a parlé de ce côté viril par rapport au fils premier-né. C'est une femme, sculpteur, il n'y en avait vraiment pas beaucoup à l'époque, sinon pas du tout. D'autre part, c'est une façon de sublimer un peu son agressivité, car comme je le dis, on frappe avec un marteau, c'est quelque chose d'assez violent que cette sculpture, dans la pierre en tout cas, et dans le marbre. Et d'autre part, je pense que c'est une façon de dire tout ce qu'elle ne pouvait pas dire, d'exprimer tout ce qu'elle n'a pas pu exprimer, de ne jamais être contrecarrée, et en même temps d'être son chef, son propre chef, si l'on peut dire. N'avoir personne au-dessus d'elle.
Sa vie est terrifiante et terriblement émouvante, mais elle-même n'a pas arrangé les choses dans ses rapports avec les gens, quoi. Avec les artistes, avec les critiques d'art, avec sa famille, avec ses personnes, quoi. Elle était vraiment enfermée sur elle-même, d'un abord très difficile, très sauvage.
Et puis alors s'est produit le cataclysme dans la famille, ma sœur. Trouvant qu'elle avait une vocation de grande artiste, ce qui était malheureusement vrai, n'est-ce pas? Ayant découvert de la terre glaise, elle avait commencé à faire des petites statues qui ont frappé M. Alfred Boucher, le statuaire. Alors, ma sœur, qui avait une volonté terrible, a réussi à entraîner toute la famille à Paris, voulant faire de la sculpture. Moi, ce qui paraît, ayant une vocation d'écrivain, mon autre sœur de musicienne, enfin bref, hein, la famille s'est séparée en deux. Mon père est resté à Vassy et nous, nous sommes allés à Paris, boulevard Montparnasse, où nous nous sommes installés.
La famille Claudel va donc suivre un petit peu les différentes affectations du père,
oui.
Donc de Camille. Donc ils vivent
à Nogent, à Vassy, Vassy-sur-Blaise, et puis son dernier poste c'est à Compiègne. Et après la famille s'est transportée à Paris en 1881, où ils sont installés d'abord le boulevard du Montparnasse et puis ensuite boulevard du Port-Royal.
Il reste effectivement une photo de l'époque lors des fiançailles de Louise,
voilà,
de Massary,
oui,
avec son mari.
Exactement, elle est très célèbre cette photo. D'ailleurs, c'est après le mariage de sa sœur, Louise, et après le mariage de son amie Jessie Lipscomb, que Camille a quitté le domicile familial pour s'installer seule, boulevard d'Italie.
Ce qui était l'époque de la grande période de sa liaison avec Rodin.
Oui, là ça a commencé, ils avaient le même atelier, et donc ils se voyaient beaucoup, c'est la période de création avec Rodin.
Auguste Rodin à Camille Claudel, 1883. Ma féroce amie, ma pauvre tête est bien malade et je ne puis plus me lever le matin. Ce soir, j'ai parcouru des heures sans te trouver nos endroits. Que la mort me serait douce et comme mon agonie est longue. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu à l'atelier? Où vas-tu? À quelle douleur j'étais destiné? J'ai des moments d'anémie où je souffre moins, mais aujourd'hui l'implacable douleur reste. Camille m'a bien aimé, malgré tout, malgré la folie que je sens venir et qui sera votre œuvre si cela continue. Pourquoi ne me crois-tu pas? J'abandonne la sculpture. Si je pouvais aller n'importe où, un pays où j'oublierais, mais il n'y en a pas. Aie pitié méchante, je n'en puis plus. Je ne puis plus passer un jour sans te voir, sinon l'atroce folie. Ma Camille, sois assurée que je n'ai aucune femme en amitié, et toute mon âme t'appartient. Je pleure et tu en doutes. Je suis déjà mort et je ne comprends plus le mal que je me suis donné pour des choses qui me sont si indifférentes maintenant. Laisse-moi te voir tous les jours. Ne laisse pas prendre à la hideuse et lente maladie mon intelligence. L'amour ardent et si pur que j'ai pour toi. Enfin pitié, ma chérie, et toi-même en seras récompensée. Je t'embrasse les mains, mon ami, toi qui me donnes des jouissances si élevées, si ardentes. Près de toi, mon âme existe avec force et dans sa fureur d'amour. Ton respect est toujours au-dessus. Le respect que j'ai pour ton caractère, pour toi, ma Camille, est une cause de ma violente passion. Ne me traite pas impitoyablement, je te demande si peu.
Cher ami, je suis bien fâchée d'apprendre que vous êtes encore malade. Je suis sûre que vous avez encore fait des excès de nourriture dans vos maudits dîners avec le maudit monde que je déteste, qui vous prend votre santé et qui ne vous rend rien. Mais je ne veux rien dire, car je sais que je suis impuissante à vous préserver du mal que je vois. Comment faites-vous pour travailler à la maquette de votre figure sans modèle? Dites-le-moi, j'en suis très inquiète. Vous me reprochez de ne pas vous écrire assez long, mais vous-même, vous m'envoyez quelques lignes banales et indifférentes qui ne m'amusent pas. Vous pensez bien que je ne suis pas très gaie ici. Il me semble que je suis loin de vous et que je vous suis complètement étrangère. Il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente. Je vous raconterai mieux ce que j'ai fait quand je vous verrai. Je vais, jeudi prochain, chez Miss Fawcett. Je vous écrirai le jour de mon départ d'Angleterre. D'ici là, je vous en prie, travaillez. Gardez tout le plaisir pour moi. Je vous embrasse. Camille.
Pour l'avenir, à partir d'aujourd'hui, 12 octobre 1886, je ne tiendrai pour mon élève que Mademoiselle Camille Claudel. Et je la protégerai seule par tous les moyens que j'aurai à ma disposition. Par mes amis, qui seront les siens, surtout par mes amis influents. Je n'irai plus sous aucun prétexte chez madame à qui je n'enseignerai plus la sculpture. Après l'exposition au mois de mai, nous partons pour l'Italie et y restons au moins 6 mois, communément d'une liaison indissoluble, après laquelle Mademoiselle Camille sera ma femme. D'ici au mois de mai, je n'aurai aucune femme, sans cela les conditions sont rompues. Si ma commande du Chili s'exécute, c'est au Chili que nous irons, au lieu de l'Italie. Je ne prendrai aucun des modèles de femmes que j'ai connues. Mademoiselle Camille s'engage à me recevoir à son atelier 4 fois par mois jusqu'au mois de mai. Rodin.
Monsieur Rodin, comme je n'ai rien à faire, je vous écris encore. Vous ne pouvez vous figurer comme il fait bon à Lillette. J'ai mangé aujourd'hui dans la salle du milieu qui sert de serre, où l'on voit le jardin des deux côtés. Madame Courcelles m'a proposé, sans que j'en parle le moins du monde, que si cela vous était agréable, vous pourriez y manger de temps en temps, et même toujours, je crois qu'elle en a une fameuse envie. Et c'est si joli là. Je me suis promenée dans le parc, tout étendu, foin, blé, avoine. On peut faire le tour partout, c'est charmant. Si vous êtes gentil à tenir votre promesse, nous connaîtrons le paradis. Vous aurez la chambre que vous voulez pour travailler. La vieille sera à vos genoux, je crois. Elle m'a dit que je pouvais prendre des bains dans la rivière où sa fille et la bonne en prennent sans aucun danger. Avec votre permission, j'en ferai autant, car c'est un grand plaisir et cela m'évitera d'aller au bain chaud à Azay. Que vous seriez gentil de m'acheter un petit costume de bain bleu foncé avec galons blancs en 2 morceaux, blouse et pantalon taille moyenne, au Louvre ou au bon marché, en serge ou à Tours. Je couche toute nue pour me faire croire que vous êtes là, mais quand je me réveille, ce n'est plus la même chose. Je vous embrasse, Camille. Surtout, ne me trompez plus.
Jamais eu, je pense pas, une période vraiment très heureuse entre les deux. Il y avait une trop de rivalité.
Reine-Marie Paris.
Et puis Camille avait un caractère trop féroce. Enfin, au début, elle a dû être tout à fait éblouie de rentrer dans l'atelier d'un grand sculpteur, hein, parce qu'il venait de recevoir la commande de la Porte de l'Enfer. Et pour elle, c'était extraordinaire. Elle n'avait jamais vu de modèle nu circuler comme ça librement dans un atelier. C'était donc la découverte du nu. Et enfin, à la fois de l'amour, de l'art, enfin, il lui a appris beaucoup quand même, elle aussi. Enfin bon, il y a eu une période vraiment de réciprocité dans le travail et d'indivision artistique. Donc elle a vécu un peu sous la coupe de Rodin pendant longtemps. Et puis pour elle, c'était un honneur de travailler à la Porte de l'Enfer. Donc elle n'a pas vu que Rodin, en fait, la spoliait un peu, prenait ses idées. Et c'est venu beaucoup plus tard. Tout à coup, elle s'est dit, mais enfin, j'ai travaillé, j'ai fait énormément de choses dans cette Porte de l'Enfer. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont de moi et qui ne seront jamais signées par moi. C'est lui qui va les signer. Et là, tout à coup, tout a basculé.
Elle avait quel âge à peu près à ce moment-là?
28 ans, par là.
Lorsque Camille Claudel a rencontré Rodin, bon, c'était une jeune fille qui n'avait pas 19 ans, bon, lui était plus âgée, et elle apprenait la sculpture.
Nicole Barbier, conservateur au musée Rodin.
Donc, dans un premier temps, leurs rapports ont été des rapports de maître à élève. Et bon, elle a appris à sculpter avec lui. Bon, très peu de temps après, voyant qu'elle était très douée, il lui a demandé de venir travailler chez lui dans l'atelier où il travaillait à la Porte de l'Enfer. Donc, comme praticienne, puisqu'il n'aimait pas tellement le terme d'élève. Elle a travaillé à ses côtés, comme les autres praticiens, en étant payée pour cela et en faisant du travail à la manière de Rodin. Enfin, le travail qu'on lui demandait de faire, comme les praticiens le faisaient pour Rodin. Et puis ensuite, il y a eu bon, la liaison qui est devenue de plus importante. Le fait qu'ils aient partagé un atelier ensemble pendant plusieurs années a fait que l'on n'a pas toujours su exactement ce qui était la part de l'un, la part de l'autre. C'est l'époque où Rodin travaillait au groupe des bourgeois de Calais. On a beaucoup dit qu'il lui confiait souvent l'exécution des mains, parce qu'elle était très douée pour les mains, les pieds. Et en effet, Rodin, lui, n'aimait pas tellement les extrémités. D'ailleurs, il n'est pas le seul dans ce cas. Plus tard, Matisse a également été travaillé de la sorte. Donc, à cette époque-là, ils travaillaient un peu ensemble. Mais parallèlement, elle avait une œuvre personnelle, puisqu'elle a montré au salon le Sakuntala. Elle avait 24 ans, ce qui n'était quand même pas un âge redoutable. Et avec le Sakuntala, elle a obtenu une médaille au salon. Donc, dire qu'elle n'a pas été reconnue de son vivant, c'est déjà peut-être un peu faux, puisque à 24 ans, une médaille d'argent au Salon des artistes français, c'était quand même déjà une reconnaissance officielle.
Décembre 1893. Mon cher Paul. J'ai eu dernièrement des malheurs. Un mouleur, pour se venger, a détruit à mon atelier plusieurs choses finies. Mais je ne veux pas t'attrister. Je suis toujours attelée à mon groupe de trois. Je vais mettre un arbre penché qui exprimera la destinée. J'ai beaucoup d'idées nouvelles qui te plairaient énormément. Tu serais tout à fait enthousiasmée. Elles rentrent dans ton esprit. Voici un croquis de la dernière esquisse, la confidence. Trois personnages en écoutent un autre derrière un paravent. Le Bénédicité. Des personnages tout petits autour d'une grande table écoutent la prière avant le repas. Tu vois que ce n'est plus du tout du Rodin et c'est habillé. Je vais faire des petites terres cuites. Dépêche-toi de revenir pour voir tout ça. J'ai un grand plaisir à travailler. Je vais envoyer au salon de Bruxelles le petit groupe des amoureux, le buste à capuchon, la valse en bronze, la petite de Lilette. Au salon prochain, le buste de l'ermite avec une draperie qui vole et le groupe de trois si j'ai fini. Voilà comment il sera, tout en largeur. Et puis, j'ai un autre groupe dans la tête que tu trouveras épatant. Il a fait dernièrement un froid terrible. J'ai été obligée de faire du feu la nuit. Je te serre la main, Camille.
Donc c'est Camille qui prend l'initiative de la rupture.
Oui, oui, c'est elle, oui.
Et c'est à ce moment-là qu'elle s'installe dans l'île Saint-Louis.
Elle s'installe d'abord seule pendant très longtemps au boulevard d'Italie, où là, elle accumule les sujets qu'elle voit à travers par sa fenêtre. Donc le vieil aveugle chantant, des rondes d'enfants, enfin énormément de petits sujets qu'elle met dans ses placards et qui malheureusement ont été détruits par elle, disparus malheureusement. des études, des croquis, quoi, d'après nature. Et bon, ensuite, c'est en 98 seulement qu'elle s'installe jusqu'à son internement au Quai Bourbon. Mais après la rupture avec Rodin, elle a créé ses plus belles œuvres, enfin, je trouve. Enfin, bien sûr, La Valse, c'est La Valse, la joueuse de flûte, La Fortune, L'âge mûr. Et enfin, toutes ses plus belles œuvres. Et La Vague, qui est tout à fait complètement différente de l'art de Rodin. Rodin n'aurait jamais fait une sculpture aussi précieuse. Et puis inspirée de l'art d'Extrême-Orient. Camille était très, très attirée par l'art d'Extrême-Orient. Elle allait aux expositions, à l'exposition universelle, où il y avait des pavillons, où elle écoutait la musique avec orientale avec Debussy.
Camille, effectivement, a été très, très sensible à l'art de l'Extrême-Orient, notamment du Japon.
Oui, du Japon, oui. Mais La Vague est complètement inspirée de La Vague d'Hokusai, hein, que vous connaissez. Mais elle y a mis ces trois petits personnages, femmes nues, et elle a replacé ces personnages dans l'immensité de la nature. Hein. C'est pas l'humain qui domine, là, c'est la nature. Ça, c'est très japonais. Et d'ailleurs, Camille enferme toujours ses personnages, les enferme dans une grotte, enfin, ou derrière un paravent, ou derrière un écheveau de cheveux, comme dans la Clotho, ou le paravent des causeuses, ou l'énorme vague déferlante de la vague en onyx. Enfin, l'univers de Camille est clos.
À partir d'un certain moment, la violence que l'on perçoit de l'extérieur devient tellement insupportable qu'elle atteint un niveau critique et que, d'abord, on est obligé de la voir comme venant de l'extérieur parce qu'on ne supporte pas d'avoir en soi-même une telle violence. Et d'autre part, on la renvoie sur l'autre comme une sorte de trop-plein. J'emploie un terme facile et exprès. Et sa destruction d'œuvre s'inscrit certainement dans ce registre-là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu supporter cet excès de violence et l'a renvoyée sur ses œuvres. Ses œuvres étant, il ne faut pas s'y tromper, une partie d'elle-même. C'est une sorte d'automutilation qu'elle s'inflige là. Et elle en parle dans une lettre à sa tante Henriette qui lui annonce une mort. Cette mort la frappe beaucoup. Et elle dit « J'étais dans une telle colère que j'ai pris toutes mes esquisses en cire. Je les ai flanquées dans le feu. Ça m'a fait une belle flambée. Je me suis chauffé les pieds à la lueur de l'incendie. C'est comme ça que je fais quand il m'arrive quelque chose de désagréable. Je prends mon marteau et j'écrabouille un bonhomme. La mort d'Henri a coûté cher. » Elle n'avait pas beaucoup de cordes à son arc. Elle ne sait pas ce que c'est que la tendresse, on n'embrassait jamais les enfants chez elle. Elle ne sait pas ce que c'est que la douceur. Comment pouvait-elle s'exprimer autrement que par la violence, d'une part? D'autre part, cette violence, à partir d'un certain moment, elle en a tellement reçu qu'elle ne peut plus. Elle ne peut plus, elle n'en peut plus. Comme dit Paul, elle avait tout investi sur lui et elle a tout perdu avec lui.
Brigitte Fabre-Pellerin.
Elle avait vraiment misé énormément. Elle espérait rattraper, entre guillemets, tout ce qui s'était passé, ou plutôt de ce qui ne s'était pas passé dans sa famille, grâce à cet homme. Je crois qu'à partir du moment où il lui manque, non pas seulement physiquement, mais il manque à sa parole, il ne l'épouse pas, il ne va pas vers elle, il ne laisse pas tomber Rose Beret. À partir de ce moment-là, pour elle, tout s'effondre, certainement. Elle voulait être aimée pour elle-même, par elle-même, pour elle-même entièrement, et sans rival surtout. Car l'histoire de la rivalité joue un rôle. Un enfant premier-né, quand il voit apparaître un deuxième, un troisième, un xième enfant, sent en lui poindre une jalousie qui est incontournable, qui s'exprime plus ou moins, mais qui est permanente, qu'on peut toujours retrouver. Et je crois que là, elle voulait retrouver une famille, mais pas les enfants, pas les autres enfants, pas ses frères et sœurs. Je crois qu'elle avait reçu trop de chocs depuis son enfance et que l'histoire avec Rodin a fait certainement basculer, a provoqué cette bascule vers le délire, c'est-à-dire du caractère paranoïaque vers le délire paranoïaque à proprement parler.
Donc l'échec ne serait pas lié à l'interruption de cette liaison, mais plutôt à la manière dont ils l'ont vécu l'un et l'autre.
Voilà, exactement.
Alors qu'on a beaucoup insisté justement sur la rupture, peut-être qu'en fait les causes sont antérieures.
Non, je crois que c'est Camille qui a provoqué cette rupture, c'est-à-dire qu'elle en avait tellement assez de ce qui se passait par ailleurs qu'elle est allée jusqu'au moment où il a prononcé le nom. Mais il n'a jamais dit vraiment. C'est elle qui a dit, bon ben un jour c'est fini, ça y est c'est fini, je ne veux plus le voir, je ne supporte plus qu'on parle de lui devant moi, etc. Elle a essayé de rattraper également, non seulement avec Rodin, mais quand Rodin s'est effondré, elle a fait une autre tentative, la troisième on pourrait dire, la première avec la famille, la deuxième avec Rodin, la troisième vis-à-vis du public. Et toutes ces œuvres qui sont postérieures à la rupture, c'est une sorte de tentative de réhabilitation par un autre œil, qui n'est plus celui de la famille, qui n'est plus celui de Rodin, qui est celui du public. Mais le public, à l'époque, n'a pas pu la reconnaître. D'abord parce qu'elle était peut-être un peu en avance, ensuite parce qu'elle ne faisait rien pour se faire connaître, et que dès qu'elle avait des contacts avec les gens, elle sombrait dans tout ce qu'elle pouvait dire sur Rodin de très négatif. Or, Rodin, à l'époque, était un personnage très connu, reconnu même.
Lettre à Paul, 1911. L'année dernière, mon voisin, le sieur Picard, copain de Rodin, frère d'un inspecteur de la sûreté, pénétrait chez moi avec une fausse clé. Il y avait contre le mur une femme en jaune. Depuis, il a fait plusieurs femmes en jaune, grandeur nature, exactement pareilles à la mienne, qu'il a exposées, rapport au bas mot, 100 000 francs. Depuis, ils font tous des femmes en jaune. Et quand je voudrais exposer la mienne, ils feront la contrepartie et me la feront interdire. Le même jour, le sieur Picard vit chez moi un monument que j'étais en train de faire et le passa à ses bons copains, les sculpteurs. On partage en frères, entre francs-maçons. Le gaillard vit un nos crochets et se taille une belle pâtée. Et quand je rue dans les brancards, il se sert de vous pour me donner des coups de fouet. Le mécanisme est facile à comprendre. Garde tout cela pour toi, inutile de crier. Il faut mieux agir en dessous. Quand ils te parleront de moi, tu leur diras « Ça nous étonne qu'elle se refuse à ce système-là. C'est pourtant assez logique, tout le monde en ferait autant. Il y a l'amour propre d'artiste, cela se comprend. Et jamais rien pour elle. » Il avait dû touper, après s'être servi de mes groupes depuis plus de 20 ans, de me faire terminer ma carrière à la charité de mes parents, du touper. Tu leur diras « Vous lui devez quelque chose pour tout ce que vous lui avez pris depuis des années. » Sans cela, son atelier restera dorénavant hermétiquement fermé. Je n'y peux rien. Les huguenots sont aussi malins que féroces. Ils m'ont élevé exprès pour leur donner des idées, connaissant la nullité de leur imagination. Je suis dans la position d'un chou qui est mangé par les chenilles. À mesure que je pousse une feuille, ils la mangent. Mes amitiés pour toi, Irène et Chouchette. Ne parle de rien. Et surtout, ne dis pas de nom. Sans cela, ils arriveraient tous me menacer.
Elle a eu tout contre elle, la pauvre.
Gérald d'Antoine.
Ce que j'ai su, ce qu'on subodorait, mais ce que j'ai su, grâce justement à la correspondance de Claudel et de Marie-Romain Roland, c'est que Rodin l'avait forcée à avorter. Donc il la prive de son enfant. Et après ça, alors là commence la folie, enfin la folie, c'est vite dit. D'ailleurs, Claudel, quand il en parle, dit toujours ce qu'on appelle la folie. Alors, ce qu'on appelle sa folie, c'est qu'elle ajoute à ça la conviction que Rodin veut lui prendre aussi ses œuvres. Alors, le moyen de se défendre la contre, elle les défait, elle les démolit.
Son cousin. 21 mars. Mon cher Charles, je ne suis pas rassurée. Je ne sais ce qui va m'arriver. Je crois que je suis en train de mal finir. Tout cela me semble louche. Si tu étais à ma place, tu verrais. C'était bien la peine de tant travailler et d'avoir du talent pour avoir une récompense comme ça. Jamais un sou, torturé de toute façon toute ma vie, privé de tout ce qui fait le bonheur de vivre et encore finir ainsi. Te rappelles-tu le pauvre marquis du Sauvencourt, du château de Muret, ton ex-voisin? Il vient seulement de mourir après avoir été enfermé pendant 30 ans. C'est affreux, on ne peut se le figurer. Dis bien des choses à ta chère Emma, à ta fille et à tes enfants. Je t'envoie mes amitiés.
Comment s'est décidé alors finalement l'internement de Camille? On sait qu'il a eu lieu à peine une semaine après la mort de son père.
Oui, ben le père a tout de même essayé de protéger Camille, tant qu'il a pu. Puis sa mère, je crois qu'elle en avait, comme on dit, ras-le-bol de sa fille, parce qu'elle lui en avait fait voir. Hein. Il faut voir que Camille n'était pas commode du tout. Hein. D'abord, elle lui en avait fait voir financièrement, parce que Camille n'arrivait pas à subvenir à ses besoins. Donc c'est la famille qui payait son loyer, les notes du boucher, enfin c'est d'après les lettres, hein, je vous dis ça. L'habillait, elle n'avait pas de commande. Elle n'avait pas de commande de l'État, elle n'avait pas de commanditaire. Elle a eu un commanditaire très très tardivement à la fin de sa vie. C'est la comtesse de Maigret. Et l'État lui a acheté une œuvre, l'abandon, lui a acheté l'âge mûr. Bon, ça, c'est une commande. Mais enfin, c'est venu trop tard, ces commandes. Et puis, bon, bah, après, il fallait faire quelque chose parce qu'elle se nourrissait plus ou que la nuit, elle sortait la nuit. Elle était comme une hagarde. Très sale, elle avait déchiré les papiers de son mur, elle ne se lavait plus, enfin c'était une pauvre loque humaine, quand il fallait la sortir de là. Ben, malheureusement, on l'a sortie, mais elle est rentrée dans un asile.
Donc là, on est en quelle année ?
1913.
Et Camille a moins de 50 ans.
49, oui.
Ce moment de fête, je pense toujours à notre chère maman. Je ne l'ai jamais revue depuis le jour où vous avez pris la funeste résolution de m'envoyer dans les asiles d'aliénés. Je pense à ce beau portrait que j'avais fait d'elle dans l'ombre de notre beau jardin, les grands yeux où se lisait une douleur secrète, l'esprit de résignation qui régnait sur toute sa figure, ses mains croisées sur ses genoux dans l'abnégation complète. Tout indiquait la modestie, le sentiment du devoir poussé à l'excès. C'était bien là notre pauvre mère. Je n'ai jamais revu le portrait, pas plus qu'elle. Si jamais tu en entends parler, tu me le diras. Je ne pense pas que l'odieux personnage dont je te parle souvent ait l'audace de se l'attribuer, comme mes autres œuvres. Ce serait trop fort, le portrait de ma mère.
Madame Claudel au directeur de l'asile de Montevergue, 1915. Je ne veux à aucun prix la retirer de chez vous, où elle se plaisait il y a très peu de temps. Je ne vais pas la changer d'établissement tous les 6 mois. Et quant à la prendre avec moi ou la remettre chez elle, comme elle était autrefois, jamais, jamais. J'ai 75 ans. Je ne puis me charger d'une fille qui a les idées les plus extravagantes, qui est remplie de mauvaises intentions à notre égard, qui nous déteste, et qui est toute prête à nous faire tout le mal qu'elle pourra. S'il faut ajouter un supplément au prix de sa pension pour qu'elle ait plus de confortable, je ne demande pas mieux, mais gardez-la, je vous en supplie. Elle vivait chez elle comme une miséreuse, ne voyant qui que ce soit depuis 10 ans, se faisant voler par tous ceux qui lui vendaient de la nourriture. Les portes et les fenêtres étaient enchaînées, cadenassées, et c'est dans une caisse posée sur une des fenêtres qu'on lui portait à manger. Quant à sa personne et son appartement, c'était quelque chose d'horrible. Elle passait son temps à écrire des lettres à des vauriens ou à des dénonciations. Enfin, elle a tous les vices. Je ne veux pas la revoir. Elle nous a fait trop de mal.
Montevergue, 18 février 1927. Chère maman, j'ai reçu aujourd'hui ton superbe colis. Il est arrivé en bon état. Tous les articles sont excellents. Je suis toujours très bien servie, malgré que je sois au loin. La maison Potin est très consciencieuse, tu peux leur faire des compliments. Le vin est délicieux, il me fait un bien extraordinaire. Le café est délicieux, le beurre aussi. Quelle différence avec toutes les saletés des maisons d'aliénés. Je revis quand ton colis arrive. Je ne vis d'ailleurs que de ce qu'il contient, car pour la nourriture d'ici, elle me rend horriblement malade. Je ne puis du tout la supporter. Ce n'est plus la peine de payer 30 francs par jour de première. Surtout, dépêche-toi d'écrire à Paul de me remettre comme j'étais avant, car je pouvais encore manger, tandis que de première classe, je ne pourrais plus manger du tout. Je ne veux pas toucher à tous ces graillons qui me rendent horriblement malade. Je me suis fait donner des pommes de terre en robe de chambre à midi et le soir. C'est de cela que je vais vivre. Cela vaut-il la peine de payer 20 francs par jour pour cela? C'est le cas de dire qu'il faut que vous soyez fou. Quant à moi, je suis tellement désolée de continuer à vivre ici que je ne suis plus une créature humaine. Je ne puis plus supporter les cris de toutes ces créatures. Cela me tourne sur le cœur. Dieu, que je voudrais être à Villeneuve. Je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait pour finir ma vie gros numéro d'une maison de santé. J'ai mérité autre chose que cela, n'en déplaise à Berthelot. Je t'embrasse en te remerciant vivement de ton superbe cadeau. Bien des amitiés à Louise et à Jacques. Camille.
Il est vrai donc que Camille, il est indéniable qu'elle avait un délire paranoïaque, un délire de la persécution. Mais il a quand même été question à un moment qu'elle sorte de son internement.
Oui, par deux fois.
Et là, la famille encore a refusé.
Mais oui, ça c'est dommage, parce qu'on aurait pu faire l'essai au moins une fois. Comme ça, on aurait vu comment elle aurait agi dans le monde, parce qu'elle était vraiment hors du monde depuis longtemps. On lui aurait donné un petit appartement avec quelqu'un pour s'occuper d'elle, ou un atelier, je ne sais pas. Peut-être qu'elle aurait recommencé la sculpture. À partir du moment où elle aurait recommencé à travailler, je pense qu'elle était sauvée. Bon, on n'a pas fait cet effort.
J'ai hâte de quitter cet endroit. Je ne sais pas si tu as l'intention de me laisser là, mais c'est bien cruel pour moi. Dire qu'on est si bien à Paris et qu'il faut y renoncer pour des lubies que vous avez dans la tête. Ne m'abandonne pas ici toute seule. Me refuser un asile à Villeneuve, je ne ferai pas de scandale comme tu le crois. Je serais trop heureuse de reprendre la vie ordinaire pour faire quoi que ce soit. Je n'oserais plus bouger tellement j'ai souffert. Tu me dis qu'il faut quelqu'un pour me servir. Comment cela? Je n'ai jamais eu de bonne de ma vie. Je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait pour finir ma vie gros numéro d'une maison de santé. J'ai mérité autre chose que cela.
Vous dites tout au début de votre livre, Brigitte Fabre-Pellerin, que l'œuvre ne nous dit rien de la maladie à propos de Camille Claudel.
Ça ne dit rien sur la maladie en tant qu'elle-même. Je veux dire que quand on regarde les œuvres de Camille, on ne peut pas dire c'est une femme qui était folle, comme dit le grand public. Elle n'avait rien de folle. Quand on regarde la petite châtelaine et même les dernières œuvres, la Niobide, en quoi peut-on dire qu'elle est folle? Rien. En revanche, je trouve qu'il y a un énorme parallèle entre ses œuvres et sa vie. Ça, oui. Je pense à la Clotho, où cette vieille femme est empêtrée, enchevêtrée dans ses cheveux, et on a l'impression vraiment de fil de la destinée qui l'enserre complètement. Je pense à la valse, où déjà le pied de la valseuse est en l'air, et on a l'impression que si l'homme n'était pas là, la valseuse s'effondrait. On peut penser au Dieu envolé également, où cette implorante qui fait partie du groupe a posteriori se retrouve en déséquilibre, à genoux, les bras tendus en avant, et où on sent qu'elle va tomber. Donc toute son œuvre, dès le moment où ça a commencé à aller mal avec Rodin, est déjà le témoin d'un déséquilibre, de quelque chose qui va mal se passer, mais ça n'est pas pour ça que c'est annonciateur de folie à proprement parler, enfin de paranoïa, de délire, disons.
Au niveau du travail, tout s'est séparé.
Nicole Barbier.
C'est-à-dire qu'elle a fait un travail beaucoup plus personnel que celui qu'elle faisait avant, et je pense qu'elle a voulu prendre le contre-pied de ce que faisait Rodin. C'était lié sans doute à sa rupture, et à partir de ce moment-là, les travaux qu'elle a montrés, qu'elle a exécutés, étaient totalement différents de ceux que pouvait exécuter Rodin parallèlement, même si elle continue à suivre son travail. Et c'est l'époque où elle a développé des techniques comme le travail de l'onyx, et des œuvres plus personnelles, mais peut-être en même temps très influencées par son époque, qui était l'époque 1900. Elle a voulu essayer de faire quelque chose à partir du japonisme, alors que là, ce japonisme-là n'a pas du tout intéressé Rodin. Et là aussi, elle a peut-être voulu prendre le contre-pied en choisissant cette voie. Et puis, malheureusement, elle a été obligée de s'arrêter parce que, d'abord, ce marbre onyx coûtait assez cher, et en plus, c'était extrêmement difficile à travailler, et il était également assez difficile d'en trouver de gros morceaux pour faire des objets qui ne soient pas seulement des petites statuettes.
Paul Claudel. Camille Claudel, statuaire. L'art de Camille Claudel, dès le principe, éclate par les caractères qui lui sont propres. On voit se donner magnifiquement carrière l'imagination la plus forte et la plus naïve, celle qui est proprement le don d'inventer. Son génie est celui des choses qu'elle est chargée de représenter. L'objet sculptural, pour elle, est ce qui est devenu susceptible d'être détaché, cela qui peut être cueilli, actuellement possédé entre des mains intelligentes. Ce sont ces trouvailles qui jaillissent, en une sorte d'éjaculation lyrique, ainsi que du fond même de la nature d'un cœur de poète. On les voit surgir de francs jets dans l'œuvre de Camille Claudel, avec une espèce d'allégresse ingénue, formant dans tous les sens de ses adjectifs l'art du monde le plus animé et le plus spirituel.
Paul a écrit des très belles choses sur la sculpture de Camille Claudel. On a l'impression qu'il a tout à fait compris la logique de la succession des différentes sculptures.
Oui, dès 1905, il écrit un très bel article sur l'art de sa sœur. Mais là, il est empêtré, si vous me passez le mot, par sa haine, sa prévention.
Son hostilité forte, on peut
prévention
dire.
Prévention à l'égard de Rodin, et ça gâche un peu la tranquillité et la sérénité de son jugement. Tandis qu'en 51, ayant pris tout le recul désirable, alors là, il est celui qui analyse. Et qui analyse, alors, avec la parfaite limpidité du génie. Un génie s'essayant de comprendre l'autre. Et de saisir ce qui fait la ligne de force du génie qu'il a devant lui.
Rodin privilégie plus le mouvement que Camille. Camille, elle fixe le mouvement dans l'intention qu'elle veut donner, si vous voulez. Par exemple, dans La Vase, les couples des valseurs, c'est l'instant avant la chute. Bon, c'est ce moment précis où ils vont tomber, mais ils ne tombent pas. C'est extraordinaire. Là, dans la vague est sur le point de s'effondrer sur les petites baigneuses. Juste sur le point. Alors on attend, c'est un instantané, quoi. Tandis que chez Rodin, par exemple, dans Le Bourgeois de Calais, c'est en effet le mouvement qui se continue, qu'on lit de droite à gauche, enfin qui se perpétue, qu'on peut suivre. Ou chez Camille, par exemple, on le reprend dans L'âge mûr. Hein. Là aussi, on lit dans L'âge mûr le mouvement. C'est tous les âges de la vie qui défilent sous nos yeux, quoi. On a dans un syncrétisme extraordinaire, quoi. Dans un instantané, quoi. On voit tout.
Le couple emporté dans une giration furieuse donne l'impression admirable du tourbillon et du vertige, alors que ces êtres beaux et nus, enlacés, sont enfermés dans la rigide et morne pierre. Alentour et partant d'eux est leur atmosphère, robe ou nuage, ou pli d'extase, ou mouvement de l'éther froissé, que signifient des volutes indéfinies aériennes. Elles les enlacent, les prolongent, les arrachent au sol et donnent un sens à leur fougue, comme la queue de la comète témoigne de sa course, ou comme les cavaleries héroïques sont toujours manifestées par des môles de poussière. Un haut et large esprit a seul pu concevoir cette matérialisation de l'invisible. Et qu'est-ce que l'art, en somme, si ce n'est une prise perpétuelle, inassouvie de l'humanité sur le mystère, réservoir inépuisable et sombre de toutes les beautés du possible. Léon Daudet.
Camille, elle pensait avant au sujet qu'elle allait faire. L'abandon, c'est évident qu'elle a mis 3 ans avant de terminer cette sculpture. Donc c'est très pensé, c'est très intellectuel, quoi, la sculpture de Camille. Elle est beaucoup moins charnelle aussi. C'est plus spirituelle, plus intériorisée. Comment dire, on sent que c'est une âme, quoi, qui parle. Elle y met son souffle. Enfin, c'est l'âme avec le souffle qui crée le corps.
C'est une fillette aux traits énergiques et frêles, au front volontaire, et qui regarde le ciel avec des yeux pleins d'une extraordinaire ferveur. Ce petit visage ambigu, précocement formé, sur lequel on lit toute la passion dont il est pénétré, est étrangement intelligent. Il y a en outre, dans la disproportion de cette tête déjà trop puissante, déjà trop vivante, déjà trop ouverte sur les mystères éternels et les épaules délicatement puériles qu'elle domine, quelque chose d'indéfinissable qui communique une angoisse profonde. Mathias Morhardt.
La petite châtelaine, c'est...
Reine Marie Paris.
C'est très curieux chez Camille. Elle part d'une simple observation de la nature. Hein. Par exemple, c'était la petite fille de sa logeuse du château là, de Lillette en Touraine. Donc, le premier portrait qu'elle a fait de la petite châtelaine est un portrait réaliste d'une petite fille de 6 ans. Et après, ça s'amplifie, et ça devient quelque chose d'incroyable, de fantastique, avec des cheveux dans tous les sens, et un regard halluciné. Et ça, on retrouve ça dans toute l'œuvre, presque, hein, dans L'Implorante aussi, il y a le cycle de L'Implorante.
Vous parlez justement à ce propos de thèmes inquiétants de la tête captive.
Oui, la tête captive, oui, parce que...
Captive de quoi?
Captive soit d'une coiffe, hein, soit de cheveux, elle, ou soit d'étoffes.
Dans ces constantes des œuvres de Camille, il y a aussi les yeux clos.
Les personnages de Camille ne vous regardent jamais en face, sauf l'implorante et sauf la petite châtelaine. Mais l'implorante, c'est pour vous dire sa douleur. C'est un regard de douleur. Et la petite châtelaine, c'est un regard qui n'est pas un regard d'enfant. Hein, c'est un regard d'adulte, d'angoisse sur le monde. Elle a même fait passer dans la petite châtelaine ses propres angoisses. C'est bien que ce n'est même plus un portrait d'enfant. Ce n'est bien plus un portrait d'enfant. Alors au départ, l'enfant de la première petite châtelaine, en effet, on voit là des joues joufflues, bon, elle est mignonne, et puis ça devient de plus en plus halluciné.
Cette Lorraine agreste et primesautière, qu'on a guère aidé à se faire la place qu'elle mérite, qui a connu les pires détresses, la misère déprimante et agressive, qui a lutté seule, dédaigneuse des coteries salonnières, est un des plus authentiques sculpteurs de ce temps. Il émane de son œuvre une puissance tragique. Elle a tour à tour l'énergie tourmentée et la finesse nerveuse. Certaines de ses compositions valent par une magnifique massivité. D'autres sont subtiles, aériennes, mais toutes vives. Camille Claudel n'interrompt jamais le mouvement de la vie. Il y a chez elle cette vitalité fiévreuse, ce lyrisme qui palpite dans les ouvrages de son frère, l'écrivain Paul Claudel. Louis Vauxel.
Camille Claudel est quelqu'un d'important. Ce qui est un peu dommage, c'est que tout ce battage est un peu trop insisté sur le côté dramatique de l'histoire de cette femme et masqué la création pure. Sa création existe, je pense qu'elle restera. Elle n'est peut-être pas à mettre au premier niveau, comme on cherche à le faire, mais elle est importante. Mais à la différence de Rodin, je pense que malgré tout, elle n'a pas eu véritablement d'élèves, de suiveurs d'une grande, grande qualité. Donc c'est là aussi ce qui fait peut-être la différence entre les deux artistes.
La constante de ses yeux clos dans la plupart des œuvres de
Camille. Oui, comme le psaume aussi.
Camille.
Oui.
Vous dites que c'est aussi probablement que par là, ces héroïnes se refusent au monde.
Oui, ils sont dans leur univers. Et ils tournent le dos aux gens et au monde, comme par exemple aussi la femme agenouillée devant la cheminée, comme celle qui est assise et qui regarde le feu. Elle tourne le dos au monde, vous n'en verrez pas. L'homme penché, regarde ses pieds, je n'en... La valseuse est enfouie et concentrée sur son amour, dans la volupté quoi, de l'instant. Le valseur ne regarde pas non plus. Il se regarde ni l'un ni l'autre. Enfin, il se murmure des choses dans l'oreille comme dans l'abandon.
C'est un des derniers thèmes qu'on retrouve souvent.
Voilà.
C'est ce secret comme
c'est
ça, chuchoté,
ouais,
et qui échappe donc au spectateur.
Oui, oui, c'est secret. Secret. Je trouve que la sculpture de Camille, c'est ce qui fait aussi sa grande originalité, c'est qu'il y a un mystère qui s'élève de chacune de ses œuvres, qui est vraiment très spécial à Camille.
De Camille Claudel, une émission de Bénédicte Niogret dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy, avec la participation de Reine-Marie Paris, Brigitte Fabre-Pellerin, Nicole Barbier, Gérald Antoine, Jean Grosjean, Anne Chapuis et la voix de Paul Claudel, document INA 1946-1951-1952. Texte dit par André Marcon, Christelle Wurmser, mixage, Simone Ronget
Mireille François.
Cette émission a été diffusée une première fois le 10 février 1994. Elle est disponible en podcast sur le site de France Culture.